Interview.
2 jours.
Silly Briez, bonjour.
Bonjour.
Et Ludovic Plenet, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes parmi l'assistance présente à la salle polyvalente ce samedi 4 février à 19h et se prépare donc cette soirée repas dansant organisée, et comme vous le disiez, organisée par le judo club d'Iwa pour le compte de Téléthon, l'association des familles de myopathes. Alors, pour vous, quelle émotion ça éveille de cette organisation pour ce soir ?
Mais écoutez, ça va faire un peu plus d'argent pour l'AFM afin de pouvoir continuer les essais thérapeutiques qui se passent actuellement, parce qu'en ce moment, il y a 11 maladies qui sont en essai thérapeutique pour essayer de trouver un traitement. Donc comme la recherche a toujours besoin beaucoup d'argent, et que quand on fait des essais thérapeutiques, c'est pas sur une année, c'est sur plusieurs années. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, le Téléthon a besoin de fonds pour pouvoir continuer la recherche, pour pouvoir soigner les malades.
Sylvie, d'ailleurs, vous êtes en quelque sorte la référente de l'association locale, hein, du DIWA. Vous vous tenez au courant de ce qui évolue dans la recherche pour cette maladie, contre cette maladie, et aussi ce qu'on peut savoir autour.
Oui, c'est-à-dire que l'AFM Téléthon organise pour chaque maladie ce qu'ils appellent des centres d'intérêt. Donc on est convié à ces réunions où on rencontre à ce moment-là des médecins et des chercheurs, et les médecins et les chercheurs nous expliquent où en est la recherche au niveau des traitements, ce que ça donne, et en même temps on peut nous leur poser des questions sur nos problèmes médicaux qu'on a et leur demander où ils en sont exactement. Voilà. Donc l'AFM fait beaucoup de choses aussi pour la recherche, mais aussi pour les malades. Elle aide les malades pour énormément de choses. Même il y a des délégations de l'AFM dans chaque région de France, et les salariés de l'AFM sont là pour les malades, pour nous aider à la fois pour nos démarches administratives, parce que c'est des dossiers qui sont très lourds, pour demander des aides pour les fauteuils roulants, l'aménagement de la maison, mais aussi ils nous accompagnent au début dans les hôpitaux qui sont des centres de référence où il y a vraiment des médecins qui sont spécialisés. Voilà, donc l'AFM Téléthon, c'est aussi des salariés qui sont là pour les malades. C'est un tout.
Ludovic Plenet, vous êtes aussi présent. Quel est votre rôle au sein de l'AFM ? Vous en êtes membre d'ailleurs ?
Oui, je suis membre bénévole de la délégation de la Drôme. Donc on représente l'AFM Téléthon sur le département de la Drôme. Nous, notre rôle, c'est d'être là pour informer les malades du département. C'est aussi pour organiser des moments conviviaux. Comme on en a organisé un dernièrement, on a fait une galette des rois sur Valence, où il y avait Sylvie aussi qui était présente, qui fait partie des familles que l'on suit sur nos listes. Et on est également en charge de la revendication sur le département. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on siège dans les instances qui accordent les droits pour les personnes en situation de handicap sur la Drôme, pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Voilà, pour défendre effectivement la spécificité de nos myopathies. À titre personnel, je suis aussi engagé sur le Téléthon parce que j'organise, récemment j'ai organisé une page de collecte, mais souvent j'organise des concerts. Donc on va en organiser un pour le prochain Téléthon. Et du coup, moi aussi, je tiens à signaler aussi le rôle de la coordination. Parce qu'il y a la délégation, on n'est que des bénévoles. il y a la coordination qui, elle, pilote toutes les animations du Téléthon sur la région. Donc c'est elle qui est en charge de, pendant la période du Téléthon, d'accréditer toutes les manifestations. On a les services régionaux dont parlait Sylvie, qui sont représentatifs en région et qui effectivement salarient des référents de parcours de santé qui accompagnent les malades, qui nous accompagnent, parce que moi je suis concerné directement aussi par la myopathie, et qui nous accompagnent, comme disait Sylvie, pour nos projets de vie, pour essayer d'avancer, de trouver des aides techniques, de trouver les bons médecins. Et puis les centres de référence effectivement ont été créés sous l'impulsion de la FM Téléthon. C'est les services publics après qui prennent le dessus pour financer, mais ça fait partie d'un plan maladie rare qui a été mis en place grâce à la FM Téléthon. Voilà, c'est la FM Téléthon, c'est les recherches. Voilà. Mais moi, je suis plutôt délégué à la délégation de la Drôme. Donc on est vraiment en contact des familles. Je dirais on est moins axé sur la recherche. Mais effectivement, le Téléthon, l'argent qui est collecté, ça sert effectivement parce qu'on a des salariés au niveau régional, mais ça sert aussi pour payer des laboratoires, des chercheurs, pour avancer sur les pathologies. Voilà. Donc effectivement, récemment, on a eu la thérapie génique qui a guéri des enfants atteints d'une amyotrophie spinale. Donc on en a suffisamment parlé et ça circule en boucle quand on est sur le Téléthon. Mais pour en arriver là, ça a été des années de recherche en laboratoire, après des essais sur les animaux. Et puis du coup, ça arrivait là. Voilà. Donc le chemin est long. Donc chaque piste thérapeutique qu'on engage, ça sera pas en 5 minutes, ça demande de l'argent. Mais on a déjà fait la preuve que ça marche, en tout cas. Voilà. Pour dire sur la FM Téléthon. Un topo d'horizon. Voilà.
Sylvie Briet, donc vous parlez de recherche, vous vous intéressez fortement à ce qui s'y passe. D'ailleurs, pour introduire peut-être votre engagement, on peut parler de votre situation. Qu'est-ce qui vous a amené justement à agir au sein de l'AFM ?
Moi, l'AFM, comme je vous disais tout à l'heure, je la connais depuis que je suis petite. Parce qu'on a découvert cette maladie que j'ai sur ma grand-mère, qui, elle, à l'époque, justement, a recherché une association qui s'occupait de ça. Et donc, les médecins qu'elle voyait à Paris, à la Salpêtrière, l'ont orientée vers l'AFM. Et donc, ma grand-mère a commencé à donner à l'AFM pour qu'ils puissent trouver un traitement, des médicaments pour les malades. Et ma mère a été atteinte aussi en même temps, donc pareil, elle a donné. Donc on est dans l'AFM depuis 1971. Et puis moi après, quand. Et c'est important parce qu'on a toujours l'espoir que. Et là ça commence, l'espoir commence à venir, puisqu'ils ont commencé les essais cliniques pour ma pathologie. Et pour d'autres pathologies aussi. Et donc, quand on se dit que les essais cliniques ont commencé, on a une lueur d'espoir que, justement, il va y avoir d'ici quelques temps un traitement comme il y a eu pour l'amyotrophie spinale. Et donc, c'est ça qui nous fait tenir, qui nous fait avancer, de se battre pour dire qu'on va peut-être enfin avoir un traitement. Donc.
On peut revenir justement sur ce remède récemment trouvé.
De l'amyotrophie spinale ? Oui, ça sauve des enfants. En fait, si on détecte la maladie suffisamment tôt, on peut sauver vraiment des enfants qui ont une espérance de vie très limitée, qui ne dépassait pas les 2 ans. Et qui maintenant, on voit grandir, commencer à essayer de marcher. On a plein de films. On a eu Jules à l'époque qui passait en vidéo, mais il y en a plein qui ont été traités. Pour les parents, c'est un espoir de voir grandir leurs enfants, qu'ils aient une scolarité, etc. Donc ça, c'est important. À ce moment, ce qui implique qu'on détecte le plus tôt possible ces maladies chez les nouveau-nés, mais il n'y a pas de dépistage systématique comme on peut avoir pour certaines maladies. Et donc là, la FM Téléthon est en train de se battre pour installer ça. Ça avance petit à petit. On a un projet qui s'appelle Dépisma qui est implanté sur 2 régions qui font les tests pour prouver l'efficacité des tests sur des nouveau-nés. Donc il y a quelque chose qui est, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui tourne dans 2 régions. pour une preuve de concept en fait que c'est possible pour pouvoir après que ça devienne une maladie qui est dépistée dès la naissance. Dépistage néonatal, c'est ça.
Voilà, donc c'est une maladie qui est considérée à la naissance de l'enfant. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement in utero.
Non, pas du tout. C'est vraiment c'est un traitement de thérapie génique, en fait, qui est fait dès qu'on a détecté. Alors, ça ne se fait pas du 5 minutes. Hein. Il y a des accompagnements psychologiques. Il y a tout un processus pour bien expliquer aux parents... sur quoi, à quoi ça sert, qu'il y a d'autres solutions, que c'est eux qui choisissent à la fin de toute façon. Mais voilà, il y a une préparation, ça ne se fait pas comme ça. Voilà.
Quand vous avez appris votre maladie, quel était votre sentiment? Est-ce que vous aviez quand même une certaine consolation du fait d'être aussi proche de l'AFM?
Quand j'ai appris que ma maladie avait commencé, je me suis tout de suite tournée vers eux parce que je savais qu'avec eux, justement, ils me trouveraient des médecins qui seraient capables de comprendre ma pathologie et donc de me soigner comme ils pouvaient. Pour le moment, il n'y a pas de traitement, mais que... Voilà, avec l'avancée et tout, ces médecins, on voit les neurologues. Bon, moi, dans ma pathologie, c'est ce qu'on appelle une myopathie multisystémique. Il y en a trois. Il y a la maladie de Charcot, la maladie du chêne, et moi, c'est la maladie de Stenner. Donc, ça attaque aussi tous les organes vitaux. Et donc, on voit les cardiologues. Et eux, si vous voulez, dans ces centres de l'AFM... m'a conduit vraiment dans un centre spécialisé. Notre région, c'est Bron, à Lyon. Et c'est vraiment un centre où tous les médecins travaillent ensemble, aussi bien le neurologue que le cardiologue, pour les voies respiratoires aussi. Donc, on ne peut pas voir n'importe quel médecin. Il faut vraiment que ce soit des médecins spécialisés, qui connaissent bien la maladie. Donc, pour ça, l'AFM, ça a été très important aussi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Dès qu'on m'a dit que ça commençait, j'ai tout de suite appelé l'AFM. Voilà.
Ludovic, vous vous êtes aussi retrouvé dans ce cas de figure. Est-ce que vous avez su trouver l'AFM rapidement ou il y a eu un moment de désarroi peut-être?
Moi, c'est compliqué parce que en fait, j'ai découvert ma maladie pendant l'armée. Donc j'étais de naissance, personne ne l'avait dans ma famille, et donc c'est en donnant mon sang pendant l'armée, mon service militaire, qu'ils ont trouvé des taux anormaux dans le sang, et ils ont fini par trouver que j'étais atteint d'une myopathie. Et après j'ai eu une errance, en fait, comme je n'étais pas directement impacté, que ça ne se sentait pas trop, ça ne touchait pas encore tout à fait, j'ai continué à faire comme s'il ne se passait rien, parce que c'était vraiment pas réel en fait, c'était en moi mais c'était pas réel. Donc j'étais allé voir un premier médecin à Bron. Et ce médecin donc, me disait que je pouvais encore marcher, selon les estimations, jusqu'à 50 ans. Mais ce médecin est décédé et j'ai plus eu aucun suivi. Et puis moi, j'ai fait ma vie sans... Et puis un jour, c'est revenu frapper à la porte parce que ça commençait à être compliqué. Mais moi, je suis allé directement dans les services à l'hôpital. J'étais déjà suivi. Je ne sais même pas quand c'est que je suis rentré à l'AFM Téléthon, de toute façon. Mais en tout cas, moi, maintenant, je suis engagé là-dedans. Et parce qu'effectivement, l'AFM Téléthon m'a apporté beaucoup, notamment en accompagnement. C'est surtout comme ça, le biais d'entrée à l'AFM Téléthon, c'est qu'on a un service régional avec des spécialistes qui connaissent très bien nos pathologies et toutes les aides qui existent et qui nous accompagnent au quotidien pour trouver des solutions. Pour vivre mieux avec notre handicap. Et en fait, moi je suis rentré par là aussi, c'est parce que j'ai été suivi et qu'après on veut effectivement rendre ce qu'on nous a donné. C'est pour ça qu'on s'engage souvent pour l'AFM Téléthon. C'est qu'elle nous a apporté beaucoup et que du coup, en retour, on a envie d'apporter aussi beaucoup pour la suite, pour les autres qui arrivent derrière. Voilà. Donc effectivement, peut-être que toutes les avancées qui vont avoir lieu, ça ne nous concernera pas, mais de toute façon, ça servira après. Voilà. Donc nous, on apprend à vivre avec, On est accompagné dans les centres de référence, on a des suivis de médecins qui sont spécialisés et qui voient l'évolution de voilà. Et on mesure après voilà, comment on peut avancer quand même en attendant. Voilà. Mais on n'est pas démunis. Moi, je ne compte pas que sur la recherche et les solutions. On doit aussi vivre avec. Voilà. Donc c'est un peu pour ça que je suis engagé plus à la délégation qu'à la coordination. Mais j'agis dans les deux domaines aussi parce que c'est important aussi de récolter des fonds pour faire avancer quoi, les choses.
Donc très tôt, dès cette maladie décelée, on vous a amené auprès de l'AFM, hein, c'est ça ?
Non, c'est moi-même.
C'est vous-même ?
Oui, c'est moi-même puisque je vous dis, ma mère en faisait partie. Donc du coup, quand elle était vraiment déclarée, parce que c'est, comme disait Ludovic, c'est des maladies à évolution lente. Donc si vous voulez, au début, vous n'en apercevez pas. Vous avez quelques petits symptômes. Bon, moi, comme je la connaissais très bien, puisque depuis que j'étais toute petite, je savais que je risquais de l'avoir. Déjà à l'âge de 30 ans, j'avais des faiblesses au niveau des doigts. Et puis on se dit toujours, bah non, je suis fatiguée, j'ai trop fait. Et puis bah, le jour où ça, comme ça, il va progressivement, tout doucement, il arrive à un moment donné où vraiment, bah, là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et donc du coup, je savais qu'il n'y avait que l'AFM qui pouvait me trouver un centre spécialisé pour voir des spécialistes.
Je reviens vers vous aussi. Hein. Vous avez passé plusieurs années sans tenir compte de votre situation. Avez-vous été amené justement à considérer ce que vous aviez ? Vous le saviez depuis l'armée, mais comment s'est organisée justement cette prise en charge avec les services médicaux ?
Eh ben, en fait, c'était des rendez-vous. Premièrement, la première chose, c'est le rendez-vous avec le neurologue. La porte d'entrée, c'est le neurologue qui nous explique ce que c'est notre maladie et qui nous rentre dans des fichiers pour nous avertir s'il y a des évolutions plus tard. La première rencontre, c'est le neurologue. C'est lui qui nous explique la maladie, comment ça va se passer, comment ça risque d'évoluer. Après, qui oriente en général vers la FM Téléthon parce que forcément, voilà, quand ils savent que c'est une myopathie, tous les médecins orientent vers la FM Téléthon. Après, c'est une décision qui nous incombe à nous d'y aller. C'est pas parce qu'on va nous dire. Voilà, c'est pas forcément. On n'a pas forcément envie de partager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc. Donc il faut déjà l'accepter un petit peu avant de. Voilà. Mais moi, j'ai pas eu de problème à en parler et aller effectivement prendre un rendez-vous avec la FM Téléthon, avec les référents de parcours de santé qui sont là pour nous expliquer comment ça marche les rouages, des demandes d'aide, qui est à ton disposition pour avancer et pour essayer de trouver des solutions.
Je m'adresse à la personne référente de l'AFM. De nos jours en France, combien de personnes souffrent de myopathie ?
Je sais que pour ma part, pour ma pathologie, il y a 2500 personnes en France atteintes de la maladie de Stenner, environ. Maintenant, le nombre exact de toutes les myopathies, parce que vous en avez énormément, je ne peux pas vous dire. Ça, je ne sais pas. Parce que justement, quand on va dans ces réunions, ce qu'on appelle les centres d'intérêt, c'est vraiment sur votre pathologie, sur chaque pathologie. Donc on ne parle pas de l'autre, on ne parle pas de Duchenne, ni la myopathie des ceintures, ni la myotrophie spinale. Donc, le nombre de personnes, je ne sais pas. Je ne sais pas si Ludovic, si tu sais.
Pour vous, qu'est-ce qu'a apporté le Téléthon dans le progrès de ce combat contre cette maladie ?
Ah ben, le Téléthon, ça a apporté beaucoup de choses. On a fait un bond immense dans la recherche médicale. Parce que justement, ils ont eu les fonds pour pouvoir créer. D'abord, ils ont créé un laboratoire qui s'appelle le Généthon, où les chercheurs sont là donc pour les maladies. Et donc, tous ces chercheurs, en 1990, le laboratoire Généthon a trouvé le génome humain. aucun scientifique dans le monde n'avait encore trouvé le génome humain. Et le génome humain, c'est la carte d'identité génétique de l'homme. Et grâce à ça, donc, on peut voir ce qui se passe dans les gènes. Bon, je ne suis pas médecin, hein. Je vous dis à peu près ce qu'on entend. Savoir comment est formé un gène, comment il est détérioré, pourquoi ce gène provoque cette maladie, parce que les gènes provoquent ce qu'on appelle des séquences, et quand ça dépasse, quand c'est au-delà de 50 séquences, c'est là où le gène est détérioré et provoque la maladie. Donc grâce au Téléthon, grâce à l'argent que l'AFM a pu avoir, la science a fait un bond extraordinaire. Et ça continue. Mais comme on disait, les chercheurs ont toujours besoin d'argent. Parce que quand on fait des recherches, c'est pas une année. C'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Donc, et à chaque fois, il faut de nouveau de l'argent pour qu'ils puissent continuer.
Vous parliez du Généthon, c'est ça ?
Oui.
Ce laboratoire de recherche, il travaillait à l'initiale contre la myopathie. Est-ce qu'il a pu étendre ses compétences au-delà aussi d'autres maladies ?
Le laboratoire Généthon, il faut savoir que quand on trouve un traitement pour une myopathie, ça peut servir aussi pour toutes les autres maladies, aussi bien le cancer que pour soigner le diabète. Ils ont trouvé un traitement aussi pour les yeux, donc tout ce qui est trouvé peut servir après pour les maladies plus communes, on va dire. Tout ce qu'on trouve pour les maladies rares peut servir pour les autres maladies. C'est pour ça que quand on donne au Téléthon, on donne pour les maladies rares et orphelines, mais ça sert aussi pour les autres maladies. Et c'est ça qui est aussi important. Ce n'est pas que pour les myopathes. Quand on trouve pour soigner les gens atteints de myopathie, ça sert aussi pour les autres maladies. Donc, voilà.
Il y a eu cette nécessité de créer le Téléthon aussi, puisque, comme vous le disiez, c'est une maladie rare.
Ce sont des maladies rares.
Voilà.
Enfin,
et donc,
pas qu'une seule maladie. C'est plusieurs maladies rares.
Et donc, les pouvoirs publics n'avaient pas forcément les moyens aussi de pouvoir porter assistance médicalement à cette époque-là.
Ah bah non, s'il n'y avait pas eu tous ces millions qu'ils ont eus, ils n'auraient jamais pu faire un laboratoire. C'était pas possible, ça coûte beaucoup trop cher. Et grâce à cet argent, justement, ils ont pu créer le laboratoire de recherche. Ce qui a donné, je vous dis, la thérapie génique, voilà. C'est grâce à ce laboratoire et aux chercheurs qu'on a pu trouver tout ça. Et grâce à l'argent du Téléthon. Compagnie.
L'argent du Téléthon, il y a aussi d'autres apports financiers que le Téléthon lui-même pour cette recherche et...
La grosse partie qui est au Téléthon, de l'argent, va à la recherche. Après, c'est sûr qu'il y a toujours... Après, il y a aussi les frais de gestion.
Voilà, oui, effectivement, pour 2021, donc 103 millions d'euros, dont...
Sur 103 millions d'euros, il y a 34 millions qui sert à la mission aider, c'est-à-dire l'accompagnement des malades et de leurs familles. Ensuite, il y a la mission guérir, c'est 44 millions d'euros pour la recherche et le développement des thérapeutiques. En gros, voilà, le partage entre la mission guérir et les deux principales missions de l'AFM, qui est guérir et aider, quand même, parce qu'il n'y a pas que la guérison, il y a les deux pôles. Après, il y a la communication, les frais de collecte, les frais de gestion, et voilà. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, l'AFM Téléthon suit 8000 malades. Enfin, il y a 8000 malades qui sont suivis par la FM Téléthon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 8000, il y en a un peu plus. Mais qui sont connus par la FM Téléthon, il y en a 8000 en France.
Voilà. Parce qu'il y en a qui font un déni aussi de leur maladie. et qui donc ne rentre pas dans l'AFM Téléthon. Voilà, c'est vraiment propre à chacun d'en faire partie ou pas. Donc on est inscrit quand vous rentrez dans l'AFM Téléthon. On vous demande s'ils peuvent vous inscrire sur leur liste et c'est comme ça qu'ils peuvent calculer le nombre de malades inscrits chez eux, quoi. Mais bon, il y en a d'autres qui n'ont pas fait le pas voilà, d'aller à l'AFM.
Je viens aussi par rapport à la mobilité. Je vous vois équipé hein, d'un siège roulant. Est-ce que il y a un soutien aussi pour d'assistance publique pour accéder à ce matériel ou alors c'est aussi ça émane uniquement du Téléthon?
Alors pour de l'aménagement de la maison, non, parce qu'on nous aménage notre maison suite à notre handicap, selon qu'on... et donc les fauteuils roulants aussi. Ça, si vous voulez, c'est la NDPH, mais c'est l'administration française est tellement compliquée. On a vraiment besoin des gens de l'AFM pour nous aider à remplir tous ces dossiers. Parce que donc on a des aides par la MDPH, c'est surtout la MDPH, quoi. Surtout la MDPH. Et après, il y a pour l'aménagement de la maison, c'est. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la. Le CALD, pour l'aménagement de la maison, oui. Quand on fait les travaux chez nous, oui, c'est le CALD.
Non, on passe aussi par la MDPH pour avoir les dossiers pour le financement. Voilà. C'est la MDPH aussi, parce qu'en fait, ils accordent des prestations de compensation du handicap sur plein de domaines, l'aide au logement, l'achat d'aides techniques, par exemple. L'aménagement d'un véhicule aussi pour se déplacer. Donc ça fait partie, les aides humaines aussi, l'accompagnement qui est très important. Voilà, toutes ces demandes sont centralisées à la MDPH. Et les aides publiques passent vraiment par ça. Après, il y a la Sécu, parce qu'il y a des bases de remboursement sur chaque matériel qu'on achète. Donc, il y a une base de Sécu. Il y a la mutuelle, nos mutuelles, si on en a, qui sont par-dessus. Après, souvent, il reste du reste à charge. Il faut aller chercher les fonds sociaux, les banques, les caisses de retraite, les caisses de prévoyance. Il faut essayer de ratisser large. Parce que moi, un fauteuil roulant comme le mien, ça coûte 28 000 euros. Voilà. Donc, il faut les trouver. Et malheureusement... la MDPH ne couvre pas toutes les dépenses, il faut aussi trouver à côté. Voilà. Normalement, une prestation de compensation, c'était, on n'avait pas de reste à charge. On est loin de ça encore. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de chemin encore pour y arriver. Mais voilà, au moins ça existe déjà. Mais oui, ça coûte des fortunes, les fauteuils roulants, le mois pour ce que j'ai, parce que mes besoins en tout cas. Voilà. Mais c'est important, c'est notre moyen d'autonomie. C'est très important.
Ce besoin est lié aussi à votre activité. Vous avez une activité professionnelle, malgré tout ?
J'avais une activité professionnelle. Maintenant, je suis en invalidité depuis 2 ans. Donc, je ne travaille plus depuis 2 ans. Et je suis très engagé bénévolement aussi. Voilà. Mais j'ai travaillé pendant... je suis rentré dans la vie active très jeune. Et j'ai arrêté. Je suis rentré à 22 ans, je crois. Et j'ai arrêté il y a 2 ans. Là. Donc, je travaillais 27 ans, je crois. Voilà, donc j'ai été travaillé 15 ans dans un groupe qui fabriquait des machines textiles à l'époque. Autant vous dire que maintenant ça n'existe plus parce que c'est plus ici. Et j'étais dans une filiale informatique et j'ai travaillé 7 ans dans une mutuelle avant d'arrêter à Ezio à Valence. Voilà,
je garde toujours l'aspect mobilité. Vous parlez de la maison, c'est un lieu où vous passez le plus de temps. Est-ce que parfois vous pouvez sortir? Et est-ce que pour vous, les accès dans les villes, dans les lieux, sont relativement accessibles ou pas?
Pas toujours, non. Pas toujours. Il y a certains endroits où on ne peut pas aller. Et puis on a surtout peur des voitures, parce que les trottoirs, c'est pas facile. Tout dépend comment c'est aménagé. Et on reste surtout... Moi, je sais que je reste... chez moi, et je sors que quand mon mari est là, déjà, il faut monter le fauteuil dans la voiture, donc du coup, je sors qu'avec mon mari. Sinon, je suis tout le temps chez moi. Voilà. On n'a pas bien le choix. On n'a pas bien le choix.
C'est le cas pour vous aussi, vous avez peut-être plus de possibilités de sortir ?
À Valence, en tout cas, moi je suis à Valence. Effectivement, il y a de quoi sortir. Effectivement, il y a encore du boulot parce que tout n'est pas accessible, mais je peux me déplacer en bus, il y a des transports adaptés. On est quand même assez libre de se déplacer. On peut faire pas mal de choses. Effectivement, il y a encore beaucoup de boulot parce que tout n'est pas accessible encore dans les établissements recevant du public, alors que ça doit faire des années que ça devrait être le cas. Moi, je suis à la commission d'accessibilité de la ville de Valence, donc je vois un peu comment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objectifs de moyens, mais pas beaucoup d'objectifs de résultats, on trouve, enfin, moi, ce que je constate. Et comme si il fallait faire... On avait une loi, on n'avait pas le droit de sortir du cadre, il fallait faire ce qu'il y avait dans la loi, mais si ça ne marchait pas, on ne se posait pas la question, est-ce que ça vient des réglementations, est-ce qu'on peut aller plus loin. Voilà. Moi, je participe à un projet là, pour la future MDA, qui est la MDPH, mais on s'appelle MDA, sur Valence. On a un cabinet qui s'appelle le CRIDEF qui nous accompagne, et qui est vraiment sur cette notion d'usage, de qualité d'usage plutôt que de répondre à une norme. C'est assez intéressant de... Voilà. C'est eux qui ont fait le premier tram à Grenoble, donc c'était une réussite. Ils viennent de Grenoble. Donc c'est vrai qu'on essaie de pousser ça, d'être vraiment consulté vraiment en tant qu'expert d'usage, d'accompagnement, parce que nous on sait ce dont on a besoin. On est confronté tous les jours à tellement de difficultés qu'on voit systématiquement les choses qui ne vont pas aller d'emblée. Voilà. C'est vrai qu'on aimerait être incorporé plus souvent en amont des projets en fait. Et pas à la fin, quand c'est fini, qu'on demande si c'est accessible, et c'est trop tard en général. Et s'il y a des trucs qui ne vont pas, il faut tout casser, ça en coûte encore plus cher. Donc c'est vrai que c'est dur de faire entendre ça. Il y en a qui l'entendent, mais ça, c'est un peu le combat que j'essaie d'avoir en tant que la commission d'accessibilité. C'est d'essayer d'installer cette façon de faire. Mais ce n'est pas évident. Voilà. Mais effectivement, la ville de Valence, il y a quand même pas mal de choses que je peux faire à Valence. Je ne veux pas cloîtrer chez moi, voilà. Je participe à chanter dans une chorale, mais j'ai pas de soucis. Mais c'est vrai que l'accessibilité, c'est une grande question à chaque fois qu'on sent faire quelque chose. On est obligé de se renseigner de ce qu'on va faire, si on va être embêté ou pas. Je vous dis pas, quand on part en vacances, c'est faut tout border, hein. Les accès, tout, la chambre, la salle de bain, comment c'est, est-ce qu'il faut prévoir un siège de douche, parce que comment c'est fait. Mais c'est une vraie préparation. Comme si on partait à 50, hein, presque, hein, mais en temps, voilà. Donc effectivement, il y a du boulot, il y a des choses qui sont faites, ça avance petit à petit, mais on n'est pas arrivé. Voilà.
L'AFM, tout au long de l'année, c'est aussi des réunions. Est-ce que vous organisez des entretiens entre vous pour vous tenir au courant, justement, de ce qui se passe? Est-ce que l'avènement la visioconférence a aussi amené peut-être plus de liens?
Oui, il y a eu des visioconférences
pendant le Covid.
Oui, on a eu... Et puis, c'est des... Comme je vous disais, c'est des réunions où on se retrouve, comme là au mois de juin, c'est le juin de l'année dernière, on avait ce qu'on appelle la journée des familles. Ça se passait à Paris. Et là, c'est toutes les délégations de France avec les malades. On s'est tous retrouvés avec, justement, comme je vous expliquais, il y avait des pavillons où il y avait les chercheurs et les médecins qui étaient là pour vous parler pour chaque maladie différente. Donc, c'est ça, les journées des familles. Il y en a une aussi qui se passe en Ardèche, en région, oui. C'était sur l'Ardèche aussi.
Oui, il y a... Là, en fait, une année, on fait les journées des familles, on va tous à Paris, toutes les délégations. Et une année, c'est en région, où on se retrouve, où là, c'est plus organisé par les services régionaux. Mais c'est que pour la région. Mais effectivement, c'est des moments où... assez fort, surtout les JDF, parce que là-bas, on y voit tous les chercheurs et on peut poser des questions sur nos pathologies, c'est super intéressant. Il y a des conférences à cette occasion. Après, effectivement, il y a des groupes d'intérêt aussi qui interviennent pour certaines pathologies. C'est des bénévoles, experts de leur maladie, et qui organise des journées d'information sur cette pathologie pour justement parler des avancées scientifiques sur leur pathologie. Ça, c'est important. C'est des groupes. Ah, c'est pas pour toutes les pathologies. Il y a 9 centres groupes d'intérêt. Alors, je ne saurais pas dire là comme ça quelle maladie suivre, mais en tout cas, il y a Steiner, par exemple. Il y a Duchenne Becker pour ma part. Et eux se renseignent effectivement tout le côté scientifique et repartagent après. Après, il y a effectivement maintenant, on profite de l'élan de la visioconférence qui a été poussée par le Covid, où on est tous un peu cloîtrés chez nous et ça a permis de se voir à distance. Effectivement, ils ont un peu gardé et progressé là-dessus parce que souvent, il y a des conférences qui sont proposées en visio aussi pour les avancées liées à certaines maladies et en général de tout ce qui est découvert par la FM Téléthon, ce que propose la FM Téléthon. Voilà, il y a beaucoup de visio et il y a certaines délégations qui organisent aussi des journées d'information avec les services régionaux. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire pour informer les familles.
Voilà. Et après, on reçoit aussi des lettres, oui. Lettres aux adhérents, et on peut s'abonner à un journal, le VLM, où on a justement tout sur toutes les recherches, tout ce qui se passe. Donc on est quand même bien informé.
Il y a un prochain rendez-vous, je crois, un roman.
Oui, alors là, ça va être pour remercier tous ceux qui, dans le département, ont participé pour le Téléthon. Donc là, c'est une réunion de tous les gens, comme ici, par exemple, Jean-Paul Rey et la mairie qui a organisé le Téléthon. Donc là, ils sont conviés à cette réunion pour les remercier de ce qu'ils ont fait. Voilà.
Pour connaître, il y a un site internet pour que le public puisse s'informer aussi.
Oui, la FM Téléthon, mais il y a tout un site internet où on peut aller chercher des informations. Et ça, c'est niveau national. Niveau délégation, non, on n'a pas de site internet ou comme ça. Par contre, on crée un journal. C'est moi qui suis en charge d'un journal d'information pour récupérer des infos qu'on a de Paris et les diffuser aussi de temps en temps quand je trouve qu'elles sont intéressantes aux familles du département.
Eh bien, Sylvie Briet et Ludovic Plaigné, je vous remercie tous deux de nous avoir donné un peu de temps pour Air du Bois et pour aussi informer cette soirée repas dansant organisée donc à la salle polyvalente ce 4 février. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, bonne soirée à vous aussi.
Merci, bonne soirée.
Au revoir. Thank you.